Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui dans ce séminaire Zola. C'est l'occasion pour moi de vous faire aussi un petit signe par les moyens de communication moderne. Je remercie bien sûr Monsieur Alain Pagès, Monsieur Olivier Lombroso pour leur invitation à ce séminaire et Jean-Sébastien Mac aussi pour toute son assistance aussi bien technique qu'amicale. Alors, la communication que je vous présente aujourd'hui est centrée autour d'une question, celle de savoir si le naturalisme est un anti-humanisme ou un nouvel humanisme. Et il me tient tout particulièrement à cœur de dédier cette communication à M. Olivier Lombroso. Vous allez comprendre pourquoi. L'examen de la critique du XIXe siècle met en évidence la violence avec laquelle les adversaires de Zola accuse le courant naturaliste de marginaliser l'être humain. De nombreux passages sensibles de l'œuvre zolienne et l'engagement de l'auteur lors de l'affaire Dreyfus démentent bien sûr cette image d'un Zola misanthrope qui n'accorderait aucune importance à l'individu. On serait donc tenté de balayer d'un revers de main ces accusations de mauvaise foi proférées par des adversaires très dogmatiques. Mais l'on peut également se demander si ces discours, simplistes en apparence, ne sont pas révélateurs de la révolution copernicienne opérée par le naturalisme quant à la place de l'homme dans le monde. Nouvel humanisme dont la modernité du XXIe siècle ne cesse d'interroger les enjeux. Au terme de ma thèse, les antinaturalismes fin de siècle de Barbet à Barès, consacrés à l'étude des discours antinaturalistes, il m'est apparu que j'avais été amenée à prendre acte des critiques philosophiques qui avaient été adressées à Zola pour opérer un rééclairage et dégager une nouvelle dynamique de lecture personnelle. Il ne s'agit pas d'adhérer au discours des opposants à Zola, mais de comprendre grâce à eux combien les débats posés par le naturalisme ouvrent la modernité philosophique et j'irais même jusqu'à dire théologique des siècles suivants. Cette place trop marginale que le naturalisme est accusé d'avoir donnée à l'homme, il s'agit d'en comprendre le sens en la transférant dans les débats de la postmodernité. La question très habilement posée par Olivier Lombroso lors de ma soutenance, qui était la suivante, « Dites-vous que le naturalisme est un humanisme non anthropocentriste ?» me conduisait à expliciter parfaitement le renouvellement de mon point de vue de lectrice. Répondre franchement oui à cette question a été le détonateur d'une nouvelle lecture, pour ma part, de l'œuvre zolienne. Je défendrai donc ici le naturalisme comme le moment de l'émergence puissante d'un humanisme non anthropocentriste, en mettant en lumière les transferts successifs de ce qui est au cœur de cet humanisme désormais mobile. Dans un premier temps, nous allons voir que le naturalisme se présente comme la déconstruction de l'idéalisme, comme mythe humaniste. On peut dire qu'il opère un passage de l'humanisme de l'essence à un humanisme de l'existence. L'humanisme, en effet, offre une vision positive et stable de l'homme. La conception idéaliste, appuyée sur une certaine doctrine chrétienne, défend l'essence pour moitié divine de l'homme. L'humanisme traditionnel ne fait pas que placer l'homme au centre du monde. Selon une lecture très restrictive du passage de la Genèse qui invite l'homme à soumettre la nature, il situe celui-ci au-dessus du reste de la création. L'art et la nature doivent donc aller dans le sens de la célébration de l'âme. Celle-ci est le lieu où se manifeste la véritable essence humaine, éternelle, supérieure, qui aimante les destinées des personnages romanesques et leurs aspirations. Auguste Sautour, un petit antinaturaliste très représentatif de la critique catholique, écrit que « Le naturalisme est faux comme doctrine littéraire, pardon, en ce sens qu'il va à l'encontre des aspirations, des sentiments de notre âme. Il est anti-humain, en quelque sorte. D'autre part, le naturalisme est contraire au but utilitaire de l'art d'écrire. Son influence est nuisible à la société. L'antinaturalisme se perçoit comme un humanisme parce qu'il refuse le pessimisme scientifique, moral, mais surtout la part de l'homme soumise à la contingence. Contre l'accident des processus historiques, contre même l'essence duelle de l'homme qui se manifeste dans la temporalité, l'humanisme idéaliste joue la carte d'une essence en acte, unique, se confondant avec la volonté divine. Essence à venir, certes, mais qui demeure plus vraie que l'essence en puissance qui se manifeste dans la multiplicité des expériences singulières. Pour l'humanisme idéaliste, la persistance du mal, comme le souligne le catholique Léon Gauthier, est contingente. Si le péché originel a corrompu la nature humaine, la persistance historique du mal ne saurait être pleinement considérée comme relevant de son essence. L'homme placé au sommet de la création demeure un être abstrait, un idéal pleinement positif et pleinement accompli, tant sur le plan spirituel que sur le plan moral. Rien ne ressemble à un assommoir du XIXe siècle comme un mauvais lieu du XVe, écrit Léon Gautier. Et il y a eu des mébottes dans toutes les civilisations. Ce n'est pas flatteur pour elles, mais c'est ainsi. Le christianisme a-t-il, est-il et sera-t-il assez puissant pour triompher de toutes ces révoltes et de toutes ces révoltées? Voilà à quoi se réduit la question. Que les sombres destinées des personnages naturalistes soient communes à toutes les époques n'est pas pour le critique une raison suffisante pour justifier qu'elles soient relatées. Le mal est tout à la fois dans l'essence humaine et en dehors. Cette défense de l'humanisme comme supériorité d'un être ayant pleinement atteint son essence supérieure n'est pas seulement le fait des antinaturalistes catholiques conservateurs pour qui l'étincelle divine demeurant dans l'âme constitue l'horizon de l'essence. On la trouve également défendue par des partisans des idées rousseauistes. L'homme étant fondamentalement bon, étant corrompu par la société, étant perfectible, la traversée de l'histoire s'apparente à une odyssée, au terme de laquelle l'espoir de retrouver la pureté originelle demeure possible. Or, Zola arrache ses personnages au déterminisme de cette essence idéale pour les jeter dans le tourbillon historique. Une telle assertion peut sembler paradoxale. Zola lui-même n'a-t-il pas affirmé qu'il fondait sa littérature sur le déterminisme scientifique? Quant au combat des antinaturalistes, n'a-t-il pas pris fait et cause contre ce déterminisme pour prôner en regard la liberté? Il faut s'entendre sur le choix de ces termes. La liberté envisagée par les antinaturalistes se comprend surtout comme le choix de distinguer le bien au milieu de la contingence, autrement dit, de travailler à faire advenir cette essence en acte, pensée pour un accomplissement idéal de l'espèce humaine qui relève de la volonté divine. Le déterminisme zolien ne postule pas une même destination pour l'espèce humaine abstraite, mais observe des destinées radicalement singulières. Rompant avec une vision du monde organisée autour d'une espèce dominante, le naturalisme fait entrer dans la destinée une dimension aléatoire, jetant l'individu dans des circonstances biologiques, historiques, dans des milieux précis, au croisement des branches d'arbres généalogiques. Sorte d'être là, de Dasein échappant au rangement sous la catégorie éternelle, le personnage accomplit sa finitude au rythme des déterminismes historiques et sociaux. Le rêve, ce roman si souvent compris comme un essai de Zola à l'idéalisme, est sans doute le récit qui explicite le mieux cette opposition à un humanisme idéaliste. Soustraire l'individu à son déterminisme, à ses violences et au pouvoir du corps, est la tâche à laquelle s'attachent les idéalistes. Ces défenseurs de la liberté et de l'âme, en arrachant l'individu à ses passions et à son hérédité, effectuent sur lui un travail pour lui faire réaliser ici et maintenant cette essence parfaite qui est à l'horizon apocalyptique. Au terme du processus, certes, l'individu est élevé, mais Angélique ne sera pas un ange et la mort l'emporte. On voit donc que le nouvel humanisme, qui, avec Zola, se lève contre l'humanisme idéaliste, est fondamentalement existentialiste. Et ce n'est pas un hasard si les accusations d'anti-humanisme dirigées contre Jean-Paul Sartre ressemblent à s'y méprendre aux griefs adressés à Zola. Arlette Elkaïm Sartre, dans sa préface à l'existentialisme est un humanisme, résume la réception houleuse de la philosophie existentialiste. Les chrétiens, outre son athéisme, reprochaient à Sartre d'être matérialiste, les communistes de ne pas l'être. Les premiers lui faisaient grief de poser arbitrairement la primauté de l'en-soi, les seconds le taxaient de subjectivisme. Sartre devenait, dans l'esprit de bien des gens, l'anti-humaniste par excellence. Il démoralisait les Français, au moment où la France en ruine avait le plus besoin d'espoir. On le voit, il suffirait presque de changer le nom de l'auteur pour avoir une synthèse des reproches que la critique de son temps adresse à Zola. Absence de sentiments religieux, primauté de l'existence sur l'essence, importance de l'individu considéré comme subjectivisme, pessimisme dans un contexte historique défini par l'angoisse de la décadence. Dans la vision idéaliste de l'essence humaine, il est indispensable que l'homme fasse société. Celle-ci est la manifestation de l'harmonie de l'espèce. L'idéal humaniste en vient à effacer l'individualité, ce qui se traduit sur le plan esthétique par l'effacement des caractéristiques individuelles des personnages. Jean-Marie Seyant, en soulignant la pauvreté descriptive des romans idéalistes, met en lumière la tentation universaliste de l'humanisme idéaliste. Le monde des personnages doliens se présente alors comme inquiétant. Tandis que les hiérarchies se dissolvent, comme le déplorait Barbé d'Aurevilly, la société se trouve comme atomisée. L'humanisme perd son caractère collectif pour prendre l'individu comme centre. Le deuxième jalon que j'aimerais poser est celui de l'opposition de la surface au mythe des profondeurs. En effet, dans le nivellement naturaliste, cet être singulier ne semble même plus avoir la consistance lui permettant d'occuper le centre désormais vide de l'humanisme. Le nouvel humanisme n'est pas celui de l'individualisme, mais d'une surface humaine fragile. Pour comprendre le sens de cet aplatissement de la réalité des êtres, il est possible d'apporter l'éclairage d'un courant conspué lui aussi au XXe siècle pour son anti-humanisme, à savoir le nouveau roman. Lorsqu'Alain Robbe-Grillet fait état des accusations portées contre son projet littéraire, qui refuse ce qu'il nomme le mythe des profondeurs, il fait retentir des discours critiques dont les expressions rappellent les griefs à l'encontre de Zola. Je cite « Que des auteurs aussi différents que François Mauriac et André Rousseau, par exemple, s'accordassent à dénoncer dans la description exclusive des surfaces une mutilation gratuite, un aveuglement de jeunes révoltés, une sorte de désespoir stérile qui condamnait à la destruction de l'art, tout cela était dans l'ordre. Plus inattendue, plus inquiétante était la position, identique sous main rapport, de certains matérialistes, qui se référaient pour juger mon entreprise à des valeurs ressemblant à s'y méprendre aux valeurs traditionnelles de la chrétienté. Il ne s'agissait pas cependant pour eux d'un parti pris confessionnel, mais ici comme là, on posait en principe l'indéfectible solidarité entre notre esprit et le monde, on ramenait l'art à son rôle naturel, rassurant, de médiateur, et l'on me condamnait au nom de l'humain. Derrière cette terminologie, c'est en réalité le débat autour de l'anti-humanisme cristallisé lors de la réception du naturalisme qui refait surface dans l'histoire littéraire. Lorsqu'Alain Robbe-Grillet rappelle ironiquement les normes réalistes que la critique impose autour de la notion de personnage, il semble prendre en bloc tout le XIXe siècle. Un personnage, écrit-il, tout le monde sait ce que le mot signifie. Ce n'est pas un il quelconque, anonyme et translucide, simple sujet de l'action exprimée par le verbe. Un personnage doit avoir un nom propre, double si possible, nom de famille et prénom. Il doit avoir des parents, une hérédité. Il doit avoir une profession. S'il a des biens, cela n'en vaudra que mieux. Enfin, il doit posséder un caractère, un visage qui le reflète, un passé qui a modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à chaque événement. Si Zola, qu'Alain Robbe-Grillet ne mentionne pas explicitement, semble par l'importance de l'hérédité et la minutie des dossiers préparatoires avoir participé à cette édification du personnage comme un double des êtres existants réellement, entretenant ainsi le mythe des profondeurs, il convient de remarquer que la réception de l'auteur naturaliste par ses contemporains mettait en lumière un écart avec ce personnage traditionnel déconstruit par le nouveau roman. Il l'anticipe en quelque sorte. Le programme naturaliste, par son recours même à la science et à la réduction de l'individu à un entrecroisement de données déterminées, est perçu comme dysfonctionnant lorsqu'il s'agit de produire l'illusion réaliste au XIXe siècle. La mutilation, expression par laquelle les critiques déplorent la prédominance du corps dans le roman naturaliste, fait partie des reproches récurrents de la part de critiques qui se livrent à une dissection de l'âme des personnages et de leurs traits moraux pour leur reconnaître une existence. Le naturalisme semble anti-humaniste en ce qu'il échoue, selon le point de vue de ses contemporains, à atteindre l'individualité, dans le même temps où il s'éloigne de l'essence humaine idéale. Anatole France, dans son article sur la Terre, déplore ainsi, je cite, « ces silhouettes énormes, surhumaines, biscornues, dénuées de toute complication, jetées brutalement en masse lourde ». Le terme de silhouette lancé comme une accusation est présent dans le roman zolien. Il rend compte de la vision qu'un personnage peut avoir des autres personnages qui peuplent son monde. Conscient de son existence par l'agitation de ses sensations, le Dasein zolien aborde le monde qui l'entoure sur le mode de l'immédiateté et de l'étrangeté, jusqu'à voir s'évanouir la reconnaissance de la commune humanité. Dans Le ventre de Paris, c'est par ce terme de silhouette que la scène observée par Mademoiselle Saget, en focalisation interne, se transforme en théâtre d'ombre, dans lequel l'humain perd ses proportions. Ces dernières, considérées comme mesures parfaites du monde depuis l'homme de Vitruve, sont distordues, inquiétantes et risibles dans le même temps. Les manifestations de l'existence humaine ne sont donc plus source d'émerveillement et de respect. Elles sont au contraire burlesques. Je cite, « Se dessinaient les silhouettes de ces messieurs, avec des nez subis, des mâchoires tendues qui jaillissaient, des bras énormes qui s'allongeaient subitement, sans qu'on aperçût les corps. Ce démanchement surprenant de membres, ces profils muets et furibonds, trahissant au dehors les discussions ardentes du cabinet, la tenait derrière ses rideaux de mousseline jusqu'à ce que le transparent devint noir. » L'existence du personnage ainsi considéré ne tire pas sa force de lui-même mais du monde qui l'entoure. L'absence de lumière met fin au spectacle et avec lui à l'animation de l'individu. Métaphoriquement, si la vie du personnage ne dépend que de la lumière, comme la couleur de l'objet n'existe que par la lumière qui le frappe, c'est dire que la vie des individus n'existe plus que par les modalités extérieures qui, agissant sur lui, le font vivre et en un mot le déterminent. Cette finitude humaine dissoute dans le monde, loin de fusionner avec lui, ne peut que contempler la déchéance de l'idée mythique d'un monde hiérarchisé, dans lequel la nature tout entière serait aux ordres de l'homme. Il reste à faire, selon l'expression d'Alain Robbe-Grillet, le constat de la séparation entre l'homme et les choses, et à fonder un nouveau regard en plaçant l'homme non hors du monde, mais en dedans de lui, non au-dessus du monde, mais à sa modeste place. La fragilité et les limites des personnages s'expriment dans la fréquence avec laquelle reviennent les termes « aveugle » et « borgne » qui revendiquent le caractère imparfait de la vision humaine. Et Silver reconnut le borgne, il sourit dans la fortune des Rougon. Quant à Madame Vanzade dans l'œuvre, elle est devenue presque aveugle. Les boutiques, les allées sont à leur tour qualifiées de « borgne » dans le brouillon de l'assommoir, marquant ainsi leur fermeture à la pénétration par le regard humain. Ceci nous amène à un nouveau point, un monde vide, un monde plein, l'éviction du sujet humain au profit de l'objet dans le nouvel humanisme. Dans le roman naturaliste comme dans le nouveau roman, l'excès de matière est pointé par les détracteurs. Elle se manifesterait dans une hypertrophie descriptive. L'accusation d'anti-humanisme semble venir de la place prépondérante de l'objet en régime naturaliste. Le monde oscille entre l'excès de plein et l'insignifiance des objets triviaux, qui semble mener une existence indépendante de celle des hommes. C'est le cas du quartier de tomates dans le roman de Robbe-Grillet qui rend malade celui qui l'ingère. De manière très significative, l'objet se refuse à la digestion, c'est-à-dire à sa complète absorption par l'être humain. De même, si l'on a pu contrer les griefs adressés contre le matérialisme du naturalisme en analysant les personnifications de certains objets, on remarque que cette figure de style signifie moins une similitude entre les objets et les hommes qu'un détachement de l'objet par rapport à l'homme. L'objet ne prend pas les traits humains, il acquiert un mouvement propre, d'autant plus inquiétant qu'il s'agit d'une vie sans conscience. C'est le cas de la locomotive qui ne considère pas ce qu'elle transporte. Les wagons à bestiaux remplis de troupiers sont dégradés en bêtes tandis que l'objet devient force agissante brutalement aveugle. Je cite, c'était le galop tout droit, la bête qui fonçait tête basse et muette parmi les obstacles, elle roulait, roulait sans fin, comme affolée, de plus en plus par le bruit strident de son haleine. À Rouen, on devait prendre de l'eau et l'épouvante glaça la gare lorsqu'elle vit passer dans un vertige de fumée et de flammes ce train fou. Cette machine sans mécanicien ni chauffeur, ces wagons à bestiaux remplis de troupiers qui hurlaient des refrains patriotiques. Pour les contemporains de Zola, la découverte d'un univers romanesque dans lequel l'homme est ramené à sa très modeste place, à la marge de la nature, embarqué sur une machine folle qui n'est plus dirigée par l'esprit humain, a dû constituer une rupture marquante. Comme l'analyse Alain Robbe-Grillet, il existe dans l'humanisme classique un lien indissociable entre l'homme et la nature. Il écrit « Cette nature n'appartient pas seulement à l'homme, puisqu'elle constitue le lien entre son esprit et les choses. » C'est bien à une essence commune pour toute la création que nous sommes conviés à croire. L'univers et moi, nous n'avons plus qu'une seule âme, qu'un seul secret. Contre cette illusion vitaliste qui va souvent de pair avec une dimension morale, la déconstruction de l'humanisme traditionnel réduit les choses à ce qu'elles sont matériellement. Un ensemble d'objets, au sens étymologique du terme, ils sont lancés devant nous, avec lesquels il est impossible définitivement de faire corps. C'est pourquoi dans Pour un nouveau roman, Alain Robbe-Grillet indique que la présence des objets dans le récit moderne se fera sur le mode de la rupture. Ils se déroberont à toute appropriation symbolique, je vais citer. Dans les constructions romanesques futures, gestes et objets seront là avant d'être quelque chose. Et ils seront encore là, après, durs, inaltérables, présents pour toujours, et comme se moquant de leur propre sens, ce sens qui cherche en vain à les réduire au rôle d'ustensile précaire, de tissu provisoire et honteux, à quoi seul aurait donné forme, et de façon délibérée, la vérité humaine supérieure qui s'y est exprimée, pour aussitôt rejeter cet auxiliaire gênant dans l'oubli, dans les ténèbres. Or, on trouve déjà dans l'Assommoir, à l'occasion du dialogue autour du journal entre Lanty et Bibi la Grillade, l'expression de cette tension entre la dimension symbolique et signifiante et de l'objet et l'indépendance de celui-ci vis-à-vis de toute appropriation humaine. Je cite ce dialogue. « Écoutez ça maintenant, continua Lanty. Je passe aux nouvelles de la haute. La comtesse de Bretigny marie sa fille aînée au jeune baron de Valençay, aide-de-camp de Sa Majesté. Il y a dans la corbeille pour plus de 300 000 francs de dentelle. Qu'est-ce que ça nous fiche ? Interrompit Bibi la Grillade. On ne leur demande pas la couleur de leur chemise. La petite a beau avoir de la dentelle, elle n'en verra pas moins la lune par le même trou que les autres. L'échange est désacralisant. Il se veut révélateur de l'inutilité de la tentative pour donner un autre sens aux choses. Comme l'écrit Alain Robbe-Grillet, à la place de cet univers des significations psychologiques, sociales, fonctionnelles, il faudrait donc essayer de construire un monde plus solide, plus immédiat. Que ce soit d'abord par leur présence, que les objets et les gestes s'imposent, et que cette présence continue ensuite à dominer par-dessus toute théorie explicative qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système de référence sentimental, sociologique, freudien, métaphysique ou autre. La dentelle, dans l'échange précédent, est renvoyée à ce qu'elle est, de la dentelle, un ornement. Toute sa symbolique, pureté, beauté, raffinement, ne sert qu'à masquer le fait que le mariage se réduit à une transaction financière et sexuelle. Contre l'enjolivement des nouvelles dans le journal, le personnage de Bibi la Grillade oppose la trivialité argotique. La formule restrictive joue avec le redéploiement de la métaphore à rebours de l'humanisme qui hisse le monde à l'idéal. La lune, loin de sublimer la réalité, accentue encore la trivialité de la sexualité. Cette scène se prolonge sur ce qui pourrait apparaître comme l'illustration parfaite de la déconstruction de l'encodage symbolique des objets du monde. Les individus dans le roman zolien ne cessent de redonner un sens au monde selon des opérations basiques. Si l'objet existe, c'est de manière utilitaire, comme l'illustre le cas du journal. Je cite. Comme Lantier faisait mine d'achever sa lecture, Bec Salé dit bois sans soif, lui enleva le journal et s'assit dessus en disant « Ah non, assez, le voilà au chaud, le papier ce n'est bon qu'à ça ». Un tel passage semble, avant l'heure, souscrire à l'analyse d'Alain Robbe-Grillet, qui met en évidence la réduction de la signification matérielle de l'objet à un simple usage, c'est-à-dire à une coopération entre l'homme et le monde, impliquant une radicale altérité. L'homme, écrit Alain Robbe-Grillet, ne refuse pas tout contact avec le monde. Il accepte au contraire de l'utiliser pour des fins matérielles. Un ustensile en tant qu'ustensile n'a jamais de profondeur. Un ustensile est uniquement forme et matière et destination. Robbe-Grillet poursuit, dans une formule que Bibi la Grillade n'aurait sans doute pas démentie, « Hors de son usage, l'objet n'a pas de signification. » Cet extrait de l'Assommoir est représentatif de la mutation dans le roman zolien du statut de l'objet. Le journal, au XIXe siècle, constitue le symbole de l'association du sens aux objets. Il est le lieu où l'esprit humain s'approprie le sens du monde en l'organisant selon une dimension symbolique, par exemple. Lorsque Bec Salé désigne le journal par le substantif « papier », dans une tournure restrictive, il frappe d'invalidité toutes les tentatives allant vers la signification pour ne renvoyer qu'à l'utilisation triviale, hygiénique, qui peut être faite du journal. Est-ce à dire cependant que le nouvel humanisme ainsi esquissé, ainsi mouvant, évince toute idée de vivant ? En vérité, non, puisque cette prise de conscience de la radicale altérité de l'objet nous amène à un troisième jalon, à savoir l'égalité, du vivant. Une égalité du vivant qui n'est pas pensée selon la modalité vitaliste, puisqu'il ne s'agit pas de la penser à travers le filtre de l'âme, trop connoté religieusement, mais à travers quelque chose qui, peut-être de manière un petit peu audacieuse, pourrait être assimilé à un aurore de l'antispécisme. L'humanisme idéaliste, lui aussi, se présente comme un anti-utilitarisme. C'est en vertu de cette fréquente réduction du monde à des objets, alors, et à une fonction purement utilitaire, c'est-à-dire à une perspective extrêmement désacralisante, que les critiques ont condamné la vision bestiale que le naturalisme tendait à donner de l'homme. Les fonctions vitales, et en particulier la fonction sexuelle, réduisaient le monde à un rapport utilitaire. Car la vie du personnage naturaliste n'est pas seulement nivelée du fait de l'importance de ses pulsions physiques, elle l'est aussi par sa manière de voir le monde. En effet, Cédric Solz, dans De l'humanisme à l'antispécisme, indique que les animaux perçoivent les objets en fonction des activités qui leur associent. C'est un petit peu ce que nous avons vu avec l'exemple du journal. Ce mode de perception et cette redécouverte du monde rangent l'homme au même niveau que l'animal. Cependant, on peut légitimement se demander si, dans ce mouvement qui consiste pour l'homme à se dessaisir de son âme telle qu'elle était envisagée dans la pensée classique, l'animal ne gagne pas une dignité nouvelle. Le théologien Eugène Drewermann, dans son ouvrage « L'immortalité des animaux », déplore que la doctrine chrétienne érigeant l'homme comme maître du monde ait établi une frontière étanche entre l'homme et l'animal, empêchant sérieusement de penser la possibilité de l'existence d'une âme et par conséquent d'une vie post-mortem pour les animaux. Gageons que la forte opposition au naturalisme vient de ce que les critiques ont pressenti à travers cette littérature, les germes de ce qu'on pourrait appeler un antispécisme philosophique qui place toutes les espèces sur le même plan, sans distinction. La résistance à accepter de remettre en question la hiérarchie humaniste est grande, comme le remarque Cédric Solz aujourd'hui encore. Donc, il écrit « Un élan conservateur semble empêcher et faire apparaître comme insupportable le bouleversement des rôles sociaux assignés, risquant d'entraîner une métamorphose de l'identité homme qui comprend en elle-même l'idée d'une supériorité sur l'animal. » Cette idée d'un Zola antispéciste avant l'heure pourrait sembler farfelue au premier abord. Elle l'est le 24 mars 1896. Il publie dans le Figaro cette tribune poignante sur la souffrance animale. Pourquoi, écrit-il, la souffrance d'une bête me bouleverse-t-elle ainsi? Pourquoi ne puis-je supporter l'idée qu'une bête souffre, au point de me relever la nuit l'hiver pour m'assurer que mon chat a bien sa tasse d'eau? Pourquoi toutes les bêtes de la création sont-elles mes petites parentes? Pourquoi leur idée seule m'emplit-elle de miséricorde, de tolérance et de tendresse? Ce serait une erreur, à mon sens, de voir dans ces lignes l'expression du sentimentalisme de Zola. Il existe une véritable cohérence idéologique entre le programme théorique du naturalisme, le cycle des Rougon-Macquart, et les lignes suivantes. Voici ce qu'il écrit. Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme tous les hommes, autant que les hommes? La question reste entière. Pourquoi la bête en bonne santé, la bête qui n'a pas besoin de moi, demeure-t-elle à ce point mon amie, ma sœur, une compagne que je recherche, que j'aime? Pourquoi cette affection chez moi et pourquoi chez d'autres l'indifférence et même la haine? L'idée de famille est une invitation au dépassement de la hiérarchisation, parfois méprisante, et de la catégorisation des espèces au profit d'une reconnaissance mutuelle au sein de la zoé. La verticalité du monde s'efface au profit de liaisons horizontales. On constate que c'est à travers la souffrance que se fait la mise à égalité. La souffrance animale est pour Eugène Drewermann le point à partir de laquelle il est possible de défendre sérieusement et théologiquement la thèse d'une immortalité de l'animal en lui accordant une âme. Le moment naturaliste apparaîtrait presque comme le mouvement négatif d'un mouvement dialectique. Se défaisant de son âme, l'homme renonce à sa position surplombante pour se mettre à égalité avec l'animal, du fait de modalités communes dans l'appréhension du monde et dans la souffrance. Dans un dernier temps, l'humanisme antispéciste que Drewermann dessine au XXIe siècle reconstruit une égalité entre l'homme et l'animal en rendant son âme à l'homme et en l'accordant à l'animal. Ce n'est plus la même âme que celle que nous avions dans l'humanisme classique. Ce dernier mouvement est ébauché dans l'idée zolienne de fraternité entre l'homme et l'animal. Et c'est surtout dans la communion de tous les vivants, opprimés, animaux, enfants ou prolétaires, que ce nouvel humanisme prend racine. C'est la souffrance qui est au fondement de l'égalité antispéciste. Mais cette égalité antispéciste se trouve aussi des racines bibliques. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, dit la Bible. En remettant en question l'idée d'une distinction des souffrances en fonction des espèces, Zola annonce l'analyse de la position de Cédric Sols lorsque ce dernier écrit que, je cite, « Avec le spécisme, on considère que la mort et la souffrance causées à un individu importent ou non selon l'espèce à laquelle il est assimilé. Selon la version anthropocentrique du spécisme, c'est l'appartenance à l'espèce humaine qui constitue le critère des considérations éthiques, juridiques et politiques. L'humanisme se comprend désormais comme une sensibilité au vivant, une reconnaissance de la dignité de l'altérité pendant une expérience de lecture qui opère un décentrement de l'homme au vivant et à l'animal et du bourgeois au prolétaire. Il existe en effet une continuité entre l'humanisme idéaliste et le refus de prendre en compte l'individu tel qu'il est et dans sa dimension sociologique. Cédric Sols souligne la portée politique de la manière dont l'humanisme traditionnel conçoit l'animal. Il écrit « L'animal n'est pas un être réel, mais renvoie à la fois à une position sociale inférieure de sacrifié au sein de rapports sociaux matériels et à une invention idéologique d'infériorité devenue statut éthico-juridico-politique inférieur. » Si Zola brise le rapport hiérarchique entre l'homme et l'animal, c'est parce que ce même paradigme sous-tend chez ses opposants conservateurs et sous-tend le rejet de considérer les hommes dans leur égale dignité dans la représentation artistique. Et le meilleur exemple, c'est celui de Ferdinand Brunetière, qui opère une distinction entre les différentes classes sociales au sein du roman et qui écrit Charles Bovary, mais surtout Catherine Maheu, sont de trop pauvres sujets pour l'observateur. On a trop vite et trop aisément touché le fond. Leurs actions sont trop simples, et trop simples encore les mobiles qui les dictent. Mais, au contraire, à mesure que nous pénétrons plus avant dans la connaissance d'une Julia de Trécoeur ou d'un Monsieur de Camors, nous voyons, si je puis dire, des complications psychologiques surgir, nouvelles, et d'autant plus curieuses que, n'ayant eux-mêmes qu'à se regarder aimer, leur passion occupe de la sorte une plus grande part de leur existence. Pour mieux abolir la hiérarchie, Zola renverse les rôles. Il invite le lecteur à entrer véritablement dans le point de vue animal. Le point de vue humain, pensé par l'humanisme classique, s'efface. Et on assiste à un nouveau point de vue qui épouse des perceptions animales faites de sensibilité, de germes de conscience, sans que cela rejoigne l'âme classique. La bestialité des personnages naturalistes est manifeste lorsque les réactions humaines sont réduites à des pulsions. Mais il arrive aussi que la conscience de l'animal apparaisse plus humaine, plus riche que celle des personnages. Le meilleur exemple est peut-être celui de la mort de Trompette, ainsi perçue à travers le point de vue du cheval bataille. Dans cette page poignante, les comportements du cheval sont rapprochés de significations que l'homme peut interpréter. La conscience animale est capable de reconnaissance de l'autre, d'angoisse, de souvenir. Alors, je vais lire ce passage qui est toujours extrêmement émouvant. Puis quand Trompette, trempée de sueur, avait agonisé sur sa litière, bataille s'était mis à le flairer désespérément avec des reniflements courts pareils à des sanglots. Il le sentait devenir froid. La mine lui prenait sa joie dernière, cet ami tombé d'en haut, frais de bonnes odeurs qui lui rappelait sa jeunesse en plein air. Et il avait cassé sa longe, hennissant de peur lorsqu'il s'était aperçu que l'autre ne remuait plus. Et il demeurait, le cou allongé, la mémoire vacillante de bête, ne se souvenant peut-être des choses de la terre. Mais c'était fini. Le camarade ne verrait plus rien. Lui-même serait ainsi ficelé en un paquet pitoyable le jour où il remonterait par là. Ses pattes se mirent à trembler. Le grand air qui venait des campagnes lointaines l'étouffait, et il était comme ivre quand il entra pesamment à l'écurie. Ces pages poignantes ne peuvent pas laisser le lecteur indifférent. Elles suscitent une vive empathie, tout en lui proposant une expérience extrêmement déroutante. Le lecteur comprend que l'acceptation du point de vue du cheval comme possible est porteur d'un bouleversement émotionnel. On peut même aller plus loin dans ce décentrement proposé par Zola de l'humain au vivant. On se souvient combien les critiques ont relevé l'importance du sens olfactif dans l'écriture zolienne. Or, il s'agit d'un sens particulièrement développé chez les bêtes. Les remarques ironiques sur la symphonie des odeurs participent de cette même critique de l'anti-humanisme prêté à Zola. La vision déployée dans le roman serait proche d'une perception animale du monde, plus totale, moins hiérarchisée, par conséquent troublante. Dans son article, renouant avec cette idée de radicale solitude du vivant dans le monde, Zola reconnaît la difficulté à quantifier le ressenti des bêtes. Mais cette incommunicabilité ne rend le rapport à ses consciences que plus pressant et angoissant. Il écrit « Pour moi, lorsque je m'interroge, je crois bien que ma charité pour les bêtes est faite, comme je le disais, de ce qu'elles ne peuvent parler, expliquer leurs besoins, indiquer leurs mots. Une créature qui souffre et qui n'a aucun moyen de nous faire entendre comment et pourquoi elle souffre, n'est-ce pas affreux, n'est-ce pas angoissant ? De là, cette continuelle veille où je suis près d'une bête, m'inquiétant de ce dont elle peut manquer, m'exagérant certainement la douleur dont elle peut être atteinte. » André Lalande, dans son vocabulaire technique de la philosophie, définissait l'anthropocentrisme comme la doctrine qui fait de l'homme le centre du monde et qui considère le bien de l'humanité comme la cause finale du reste des choses. L'humanisme non anthropocentriste, tel que le suggère le naturalisme, ne fait donc pas de l'homme le centre du monde. Il le place comme un élément dans le monde, dans la lucide coexistence avec les autres composantes du monde, et en particulier avec les autres espèces. Et ce, malgré des écarts, des ruptures, l'incommunicabilité. L'humanisme, selon Zola, ne considère pas le bien de l'humanité comme la cause finale du reste des choses. L'attention dont l'auteur fait preuve vis-à-vis des bêtes met en lumière le fait que l'homme, descendu de son piédestal, est en interaction avec l'altérité. Cet humanisme pose donc au contraire l'idée que le bien du vivant devrait être la cause finale d'une action humaine, pourtant déterminée par une nature égoïste. C'est avec cette tension que l'on peut expliquer la manière dont ce nouvel humanisme, tourné vers la reconnaissance de l'animal, s'articule avec les accusations de bestialité portées contre lui. Cette bestialité, perçue par les contemporains, n'est en réalité que le constat des déviances de l'humanisme idéaliste. L'homme idéal n'existe pas, et l'observation de cette mauvaise part à l'œuvre dans l'histoire nous montre à quel point le modèle hiérarchique de l'humanisme classique, en entretenant l'homme dans l'illusion de la toute-puissance, provoque la cruauté vis-à-vis du vivant et, pour actualiser encore cette pensée, le désastre écologique actuel. Zola nous montre la face sombre de l'humanisme traditionnel, sa dégénérescence, les déviances de l'idée d'un monde orienté exclusivement vers l'être humain. S'il existe un humanisme idéaliste et lumineux qui sous-tend le roman idéaliste et qui se fonde sur un archétype et une essence idéale, l'humanisme est déchu et contaminé lorsque l'on se place sur le plan du réel et que l'on observe les dérives de cette perception hiérarchisée du monde. Dès lors que l'on substitue à l'homme archétypal un homme charnel, pétri de désirs personnels, on encourt le risque de voir l'égoïsme individuel devenir la cause finale au nom de la vision idéaliste. De manière provocante, on pourrait même dire que l'immoralité est une sorte de perversion de l'humanisme traditionnel puisqu'il s'agit d'organiser le monde pour la recherche d'un profit personnel, d'une jouissance immédiate, individuelle. C'est à ce moment-là que l'homme rejoint l'animal dont il prétend toujours se démarquer. C'est ce paradoxe que mettent en scène les personnages les plus décriés des romans zoliens. Si le naturalisme demeure un humanisme, c'est donc en vertu, grâce à ce décentrement. Il ne s'agit plus de considérer que l'homme est au centre du monde, mais qu'il est dans le monde, et que son attention doit se porter à l'extérieur de lui-même, vers le monde, vers les autres. La capacité limitée des animaux à produire un sens intelligible n'est plus, comme chez Descartes, la marque de la supériorité de l'homme sur l'animal, mais une invitation à porter une attention sensible au monde. Désidéaliser l'humanisme, considérer une autre perception du monde qui rapproche l'homme de l'animalité n'a rien de dégradant. Il s'agit de passer d'une vision de l'homme comme maître du monde à une vision de l'homme comme responsable du monde. Le naturalisme zolien, ainsi, de manière assez discrète, aurait posé les jalons de ce que le XXIe siècle nomme l'éthique du care et les questionnements écologiques actuels. La persistance de cette éthique humaniste au milieu d'un monde brutal, est exprimée en une ligne dans Germinal, pointant la radicale responsabilité de l'homme dans l'oppression et la souffrance subie par la nature, pour conférer une dignité supérieure à la mort de ces êtres sans parole, sans considération, trop peu considérés, accentuant ainsi le caractère tragique de leur destinée. Je terminerai sur cette ligne. Sur le carreau, les charbonniers demeuraient sombres devant le cadavre de Trompette. Une femme dit à mi-voix, encore un homme, ça descend, si ça veut. Je vous remercie.
Bien, merci Pascaline pour ce magnifique exposé qui, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent ici à distance, a été enregistré, qu'on pourra donc entendre à nouveau. Et je pense que ce sera d'ailleurs nécessaire parce que cet exposé est d'une telle richesse, d'une telle densité, que tous ceux qui nous écoutent auront le plaisir, s'ils le souhaitent, à vous réécouter. Je situe peut-être cette réflexion dans les recherches qui sont les vôtres. Vous avez soutenu, vous l'avez évoqué au début de votre intervention, une très belle thèse intitulée « Les antinaturalismes fin de siècle de Barbet à Barrès, 1877-1908 ». Et les réflexions que vous nous proposez aujourd'hui se situent dans la perspective de cette thèse, c'est-à-dire que en réfléchissant à ce qui est l'antinaturalisme, donc les reproches adressés à Zola et à son naturalisme, vous essayez de situer, et c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cet exposé que vous venez de faire, de situer cette réflexion, cette polémique, cette dialectique philosophique finalement, non seulement dans l'univers même du 19e siècle, comme vous l'avez fait dans votre thèse, mais en prenant un élargissement qui vous a conduite ce matin à comparer Zola à Sartre et puis à aller vers les rives du nouveau roman. De telle sorte que finalement, la réflexion que vous nous proposez prend une dimension fortement philosophique autour de ce thème d'un nouvel humanisme, d'un humanisme naturaliste, particulier, non anthropocentrique, comme vous le dites, un humanisme qui soit respectueux des bêtes, de l'ensemble du vivant, contre cet humanisme idéaliste, restreint peut-être, que Zola trouve en face de lui. Voilà, peut-être dans un instant, Jean-Sébastien Mac, qui avec Olivier et avec moi-même organise cette séance du séminaire, pourra prendre la parole pour vous faire part des questions qui arrivent avec le fil de discussion que nous avons. J'aurais, moi, simplement pour lancer la discussion, simplement une question à vous poser sur, au fond, le rôle que joue la notion d'épopée dans la façon dont le dialogue s'instaure face à Zola. Vous avez cité un moment Anatole France qui reproche à Zola, quand il lit La Terre, ses silhouettes. Vous savez que ce reproche ensuite sera dépassé de la part de ceux qui, comme Anatole France un peu plus tard, mais comme Jules Lemaître dès 1885, reconnaissent à Zola une grande force qui consiste à animer des personnages dans cette dimension épique qu'il leur donne. Mais au fond, est-ce que cette reconnaissance d'une qualité qui serait l'épopée chez Zola n'est pas quand même toujours de l'antinaturalisme? Est-ce que, véritablement, quand on reconnaît à Zola cette force épique, on lui reconnaît ce qui est en lui, c'est-à-dire un naturalisme non anthropocentrique, comme vous le montrez, ou bien est-ce qu'on continue à avoir cette perspective de l'idéalisme qui est à la base de l'antinaturalisme? Voilà ma question, hein, qui est une question générale pour ouvrir la discussion.
Oui, alors, merci pour cette question. Alors, je pense, enfin, on va dire au terme de l'étude que j'avais menée sur les discours antinaturalistes, qu'effectivement, cet éloge hein, du naturalisme comme une sorte de réactualisation du modèle épique est assez ambivalent en réalité, puisque c'est une manière certes de reconnaître certaines qualités à Zola, mais à un moment où le débat littéraire prend quand même fortement appui sur la dimension philosophique hein, de ce que Zola peut proposer comme vision du monde, et que par conséquent, déjà, le ramener à un modèle antique, c'est finalement le reclasser dans une grille de lecture issue d'une littérature classique. Donc, c'est une manière de lui dire, en fait, ce qui est bien chez vous, Zola, c'est que vous faites ce qu'ont fait les classiques. Donc, c'est une manière de le ramener à du classicisme. Et d'autre part, c'est aussi une façon de venir ressouligner chez Zola des choses qui sont assez ambivalentes pour lui. Par exemple, Zola a toujours déploré ce qu'il appelait chez lui la queue du romantisme, c'est-à-dire justement ces restes d'épopée dont il avait envie peut-être de se laver, de se débarrasser, mais on lui fait une sorte de louange par rapport à ce qui lui-même ce qui l'embête en fait, à ce qu'il souhaiterait peut-être pouvoir dépasser. Donc il y a cet aspect-là, et cet aspect aussi du vitalisme, bien sûr, puisque quand on parle de modèle épique, on reprend encore une fois la pensée classique, donc une espèce de souffle qui traverserait le monde. Alors ce souffle qui traverse le monde, il est effectivement présent chez Zola, mais il n'est pas présent selon les mêmes modalités que celles qui sont posées par l'humanisme classique. Et finalement, utiliser le terme d'épopée, c'est certainement, on va dire, une manière d'adoucir les nouveautés que pose Zola sur le plan philosophique, sur le plan esthétique, en fait, en quelque sorte, le rendre acceptable, l'accepter, mais l'accepter, je dirais, par les marges, en fait, pas par le cœur de ce que Zola souhaite faire.
Oui, c'est une réponse tout à fait intéressante. Est-ce que alors on pourrait dire que il y a peut-être une impasse, d'une certaine façon, dans la manière dont aujourd'hui ce concept d'épopée, quand on l'applique à Zola, est mis en valeur. Enfin, est-ce que vous seriez, même vous, hein, en tant que critique d'aujourd'hui, du 21e siècle, capable de faire jouer la notion d'épopée quand vous analysez le texte de Zola, ou bien au contraire, est-ce que vous dites, en vous fondant sur ce que vous venez d'avancer à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que vous dites, non, mais non, ça ne va pas, c'est une impasse, et je m'y refuse en essayant de m'appuyer justement sur cette notion que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce que vous venez d'évoquer, cette notion d'humanisme non anthropocentrique qui pour vous serait peut-être plus correcte.
Alors effectivement, en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez ambivalent et peut-être effectivement une sorte d'impasse, parce que ne pas évoquer l'épopée quand on parle de Zola, ce serait ignorer un certain nombre de caractéristiques stylistiques, en particulier de sa manière d'écrire, une certaine vision aussi du monde qui, en quelque sorte, fait concurrence, ce serait en quelque sorte une sorte de nouvelle épopée, une épopée qui ferait concurrence à l'épopée classique, traditionnelle, qui, elle, célèbre des très grands faits d'armes. On a une épopée d'un vivant qui fait des jonctions avec l'animal, avec le monde de l'objet, enfin, une sorte d'épopée. Une épopée qui n'est plus vers le haut, mais vers l'horizontalité, vraiment. Donc, il me semble difficile d'évincer complètement la dimension épique, en particulier, c'est un point sur lequel je suis sensible, puisque j'enseigne dans le secondaire, donc il est peut-être plus facile, plus pertinent d'aborder et de faire comprendre et apprécier le roman zolien par le terme d'épopée quand on s'adresse à des scolaires, par exemple, dans le secondaire, c'est un passage obligé. Et ensuite, la question du contenu philosophique pourrait peut-être venir, non pas s'opposer complètement à l'épopée, mais il y aurait peut-être une adjectivation nouvelle à ajouter à l'épopée pour qu'on puisse avoir une vision parfaitement claire de ce qui peut séparer Zola d'un auteur comme Homère, par exemple.
Oui, donc il y aurait, ce serait la richesse des textes zoliens, des strates de lecture différentes. Hein. D'une certaine façon, l'histoire de la réception de Zola au XIXe siècle et même au XXe siècle nous donne des éléments pour lire Zola aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut proposer différentes lectures, commencer peut-être, pourquoi pas, par la lecture épique pour aller ensuite au-delà vers une lecture plus complexe, celle que vous proposez aujourd'hui. J'ai encore une question peut-être et ensuite je laisserai la parole à Jean-Sébastien ou à Olivier qui suivront. Une question sur vos recherches elles-mêmes. Hein. Je les trouve passionnantes. Vous ne vous en êtes pas tenu depuis plusieurs années déjà à votre thèse. Vous allez bien au-delà. Et vous avez une sorte de cohérence remarquable qui vous conduit à vouloir vous interroger justement sur ces figures du 19e siècle qui tiennent un discours critique original, hostile au naturalisme. Vous partez de ces figures. Vous avez beaucoup analysé Léon Blois, par exemple, à qui d'ailleurs vous accordez, car il n'est pas question de mépriser, bien sûr, ce que dit Léon Blois à propos de Zola. Vous avez récemment, dans un article qui va paraître dans le prochain numéro des Cahiers naturalistes, travaillé sur la personnalité d'Emilia Pardo-Bazán, qui est à la fois une naturaliste, mais une naturaliste un peu bizarre, un peu marginale en Espagne. Alors, ma question est la suivante. Au fond, que trouvez-vous dans ces figures contemporaines de Zola, une Emilia Pardo-Bazán ou un Léon Blois qui vous permet de compléter la réflexion qui est la vôtre et de l'enrichir?
Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ces figures-là, c'est que ce sont des auteurs qui dépassent la simple critique rejet pour véritablement essayer de reconfigurer, alors soit reconfigurer le naturalisme pour Emilia Pardo-Bazán, c'est-à-dire en gros, elle a comme idée qu'il est possible de faire du naturalisme, mais pas comme celui de Zola. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de s'interroger jusqu'à quel point sa proposition est encore du naturalisme. Donc, on peut comparer comme ça des discours critique des discours théoriques, c'est-à-dire vraiment le projet de l'auteur, la vision du monde de l'auteur. Et chez quelqu'un comme Léon Blois, ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont il vient faire jouer des concepts assez. Bon, par exemple, la question du catholicisme chez Léon Blois et des problématiques morales. Avec des aspects du naturalisme, alors qu'il condamne par ailleurs, mais dont il ne peut pas quand même s'empêcher de prendre des petits éléments, ce qui nous montre que on est devant quand même des auteurs qui sont peut-être un petit peu plus intéressants que des critiques, bon, comme par exemple Auguste Sautour que j'ai cité, qui est un petit critique et qui bon, est intéressant sur le plan de l'histoire littéraire. Parce qu'il est représentatif d'une frange du discours, mais qui n'a pas des ambitions littéraires. Enfin, je veux dire, la production littéraire d'Auguste Sautour est quand même, enfin, faut le reconnaître, pas très intéressante. Ce qui n'est pas le cas de Léon Blois, il a une production littéraire intéressante. Et à mon sens, si cette production littéraire a cette force, a cette puissance, c'est parce qu'il n'arrive pas complètement à s'opposer au naturalisme. Il prend des aspects du naturalisme, ce qui nous montre que finalement, Zola, dans son projet, vient questionner certains points que même les adversaires sont obligés de reconnaître. Et sur le plan théologique, c'est particulièrement intéressant, puisque toute la question, par exemple, de l'immoralité peut venir rencontrer la question du péché humain. Et on a clairement des auteurs qui ne sont pas d'accord avec certains aspects, le déterminisme en particulier zolien, mais ne peuvent pas faire l'économie de ce que Zola dit sur ces concepts qui finalement sont très très proches de leurs propres concepts. Et donc c'est vraiment cette galaxie, en fait, cette nébuleuse, ce passage de concept à d'autres concepts que je trouve extrêmement passionnant à étudier, voir comment la notion, par exemple, d'animalité se déploie chez Zola et qu'est-ce que ça implique chez les auteurs en face, comment la notion de mal, d'immoralité se déploie chez Zola, comment elle est pensée et comment les auteurs à côté, finalement, sont obligés de repenser, de réajuster avec une vision qui finalement se rapproche de certaines problématiques extrêmement modernes. La question, par exemple, de la place de la nature, c'est une question dont on ne cesse de parler, mais y compris dans les débats actuels. Donc, la confrontation de ces points de vue, la confrontation de ces notions, de ces concepts, est vraiment le cœur, pour moi, d'une relecture, alors à la fois de l'œuvre de Zola et du 19e, mais aussi d'une relecture de notre société. C'est extrêmement intéressant de voir, par exemple, que la notion de nature, a été très, 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 très fortement défendue au XIXe siècle par l'idée que finalement, le monde est stable, et puis il y a une autre nature qui vient déstabiliser le monde, et on retrouve ces questionnements dans le XXIe siècle. Tous les débats sur la médecine aussi, des fois au hasard même des actualités, on entend des choses, des concepts, qui renvoient à ces transferts de notions entre le naturalisme et des gens qui sont en face, qui sont hostiles au naturalisme, très, très clairement, mais qui essayent quand même de repenser un peu les choses. Et ce mouvement perpétuel nous permet de comprendre en fait que derrière chaque concept qui est utilisé, il y a véritablement des enjeux idéologiques, politiques, esthétiques.
Au fond, votre réflexion sur l'antinaturalisme nous ouvre les yeux sur notre monde d'aujourd'hui, comme vous le dites, dans la mesure où on voit effectivement s'éclairer des problèmes qui sont les nôtres. Et en même temps, votre réflexion vous conduit aussi, je crois, à analyser un monde où les conflits, les polémiques sont extrêmement forts. Et là encore, cette réflexion sur l'antinaturalisme vous donne sans doute des éléments pour comprendre, par exemple, le jeu de la polémique, le jeu du système médiatique, enfin la façon dont ceux qui s'opposent aussi s'opposent parce qu'ils parlent dans des journaux différents, par exemple, et qu'ils peuvent s'opposer violemment, alors que dans des correspondances privées, ils peuvent avoir des relations plus apaisées.
Tout à fait. Et ce qui est extrêmement intéressant, justement, c'est de passer au crible un peu ce système médiatique aussi du 19e siècle, de voir qu'il y a certaines prises de position qui relèvent quand même du jeu de rôle. Hein. Enfin, clairement, on a des auteurs qui sur le devant de la scène vont être... Alors, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Par exemple, Huysmans, des fois, dans sa correspondance, c'est un peu critique vis-à-vis de Zola. Mais bon, quand même, sur le plan du... Quand il s'agit d'en parler dans l'enquête... sur l'évolution littéraire, là, il est beaucoup plus prudent, en fait. Donc, c'est assez intéressant de mesurer quel est finalement le choix de la parole publique chez ces auteurs et d'analyser aussi qu'un discours polémique est une sorte de système, en fait. Hein. C'est une sorte de système qui amène à la compréhension de certaines ramifications, de certains soubassements idéologiques, rhétoriques. Et ce qui est particulièrement intéressant, alors c'est encore mon expérience de professeur du secondaire, hein, c'est que, par exemple, cette année, nous avons dû parler avec les élèves à un moment des discours complotistes. Et donc, eh bien, je leur montrais à quel point le discours complotiste fonctionne comme un système fermé. Les élèves étaient un peu curieux de savoir un petit peu comment les discours pouvaient se mettre en place. Et nous avons fait un parallèle avec certaines polémiques au XIXe siècle. Et on voyait très clairement que c'est pareil, ce sont des auteurs qui ancrent une idée dans un système plus large et qu'ils portent dans le système médiatique, en fait, avec ensuite des choses qui vont se constituer comme des arrière-fonds dans lesquels les générations d'après vont continuer à puiser, puisque le débat antinaturaliste, il se prolonge très très largement après la bataille de la Saumure, bien sûr, mais même après la mort de Zola, on voit avec les débats qui ont entouré son entrée au Panthéon.
En effet. Je me tourne vers Jean-Sébastien ou vers Olivier pour les laisser prendre à ce débat qui est passionnant.
J'aurais bien une ou deux questions pour vous, Pascaline, suite à cette conférence extrêmement intéressante. J'aimerais peut-être deux questions un peu courtes. La première porte sur la question de l'humanisme. Au fond, est-ce que vous ne pourriez pas articuler cette réflexion générale avec ce qu'on peut appeler les filiations pré-humaniste et post-humaniste de Zola? Pré-humaniste parce que, au fond, la figure, par exemple, de Montaigne, la figure de Rabelais, semblent des figures importantes dans son esthétique. Alors là, représentant plutôt le doute, le scepticisme que l'on retrouve chez Zola, d'un humanisme plutôt sombre, et Rabelais, bien sûr, plutôt le rire, le corps, le carnaval, d'un humanisme plutôt lumineux. Et ces deux auteurs, cet humanisme des œuvres, n'est pas un repoussoir de Zola au regard de sa philosophie générale. Donc, ne faut-il pas tenir compte aussi de l'histoire de l'humanisme classique anthropocentrique par les œuvres et par les auteurs. Et puis, la question peut-être historique, parce que la question de l'historicité de l'humanisme me semble importante, c'est-à-dire le passage par l'humanisme des Lumières entre la Renaissance et le XIXe siècle. Et par exemple, la figure de Voltaire, notamment avec l'affaire Calas, qui a été souvent rapprochée de l'affaire Dreyfus, montre aussi un autre visage d'un humanisme classique qui a peut-être été important pour Zola et pas simplement un repoussoir. Inversement, la question du post-humanisme, c'est-à-dire du XXe siècle, dans quelle mesure peut-on faire le comparatisme lorsqu'on pense, par exemple, que le XXe siècle a été meurtri par deux guerres mondiales qui ont développé sur l'humain une vision de l'absurde, une vision de la barbarie que Zola ne pouvait pas connaître et ne pouvait même pas imaginer. Donc, vous voyez, c'est un peu autour de l'historicité de l'humanisme plutôt qu'une vision transhistorique que porte mon interrogation. Et la deuxième question porte sur, au fond, Zola et Lévi-Strauss. Lévi-Strauss disait « le structuralisme est un humanisme » parce que justement, il voulait montrer qu'on pouvait parler de l'homme sans être anthropocentrique et qu'au contraire, en étant loin de l'anthropocentrisme, on décrivait encore mieux les sociétés humaines. Y a-t-il, selon vous, un lien entre Zola et Lévi-Strauss? Voilà, merci.
Alors, je vais répondre à la première question. Oui, tout à fait, je pense que cette piste de l'historicité de l'humanisme, elle serait extrêmement intéressante à creuser. Alors là, en fait, c'est vrai que sur cette communication, j'ai pris un petit peu le parti de considérer que l'humanisme, on va dire, contre lequel se pose Zola, c'est celui qui est clairement défendu par des opposants au XIXe siècle, c'est-à-dire des tenants d'un ordre politique et religieux, c'est-à-dire très clairement les monarchistes plutôt catholiques, plutôt tendance roman idéaliste, qui tiennent un peu le haut du pavé à ce moment-là et qui ont, en quelque sorte, c'est eux qui donnent le la sur le débat littéraire. Après, il est tout à fait exact que, d'ailleurs, j'avais un petit peu hésité à remonter jusqu'à Montaigne, parce qu'effectivement, Zola se réclame, enfin, dit que le naturalisme vient de Montaigne. Donc, il y a clairement cette même remise en question. Montaigne, c'est un petit peu aussi cette idée qu'il y a une hiérarchisation, mais qui n'est pas franchement la même, effectivement, que celle que posent les adversaires de Zola au XIXe. Où il y a vraiment une sorte de supériorité sur l'homme. Et effectivement, sur la veine écrite aussi, on peut trouver des éléments d'un humanisme, on va dire, qui est quand même assez détonnant, parce que Rabelais nous propose une vision du carnaval. C'est sûr que si on confrontait... si on faisait un peu d'anachronisme et qu'on confrontait la production de Rabelais à un grand auteur, je ne sais pas, comme je sais pas, Octave Feuilly, un grand auteur idéaliste, et qu'on lui masque le fait que c'est Rabelais, qu'on lui dise voilà, qu'est-ce que tu penses de cette œuvre-là, je doute que Octave Feuilly applaudirait des deux mains. Donc il y a cette idée en fait du fait qu'il y a le problème du classique, en fait, je pense. Ce qui fait que, alors, je n'ai pas voulu m'engager dans cette voie-là, mais je pense que je vais du coup pouvoir m'y engager maintenant que vous m'en ouvrez la porte. Cette question du classique, cette question sur le préhumanisme, hein, qui fait que bon, c'est à la fois pour Zola une manière de se réclamer de choses qui existent déjà, qui sont en quelque sorte reconnues comme effectivement des éléments humanistes. En même temps, il en prend des éléments qui, dans cet humanisme-là, sont quand même conflictuels par rapport à la vision quand même très restrictive de l'humanisme de ses contemporains du XIXe. Et donc, il y a ce jeu comme ça, ce jeu sur le classique, comme à la fois... on va dire effectivement légitimation, et puis en même temps ce sont déjà des classiques qui sont détonnants. La question des Lumières, effectivement, elle se pose aussi, dans la mesure où, je l'avais un petit peu étudié dans ma thèse, mais la question de l'héritage, c'est encore une question d'héritage, l'héritage de la philosophie du XVIIIe siècle est quelque chose qui est fortement reproché à Zola. Donc, c'est-à-dire que les humanistes du XIXe ne pensent pas du tout l'héritage de la philosophie des Lumières comme un héritage humaniste, mais comme c'est l'héritage de la pensée révolutionnaire. Donc là, on a en fait clairement, le problème, c'est que le monde de l'humanisme est très très fracturé. Donc c'est un peu par facilité, il est vrai que j'ai parlé d'humanisme classique du XIXe, c'est vraiment l'humanisme, on va dire, de son temps, de contemporain, on va dire. On ne peut pas dire que Zola est anti-humaniste à l'échelle de toute l'histoire de l'humanisme, puisqu'on trouverait forcément des parentés extrêmement fortes. Alors la question du post-humanisme et de la Seconde Guerre mondiale et de la Première aussi, c'est une question, à vrai dire, que je me suis posée quand j'ai réalisé cette communication. Je me suis demandé à quel point il était légitime de pouvoir éclairer, on va dire, rétrospectivement quelque chose. Alors, de manière un petit peu facile, je me dis que le séminaire est placé sous le signe du transfert, donc il y a peut-être une petite liberté. Après, il est vrai que sur le plan méthodologique, je suis tout à fait d'accord que c'est peut-être quelque chose d'un petit peu... c'est quelque chose qui, en tout cas, mériterait d'être un petit peu mieux légitimé, hein, si on devait l'approfondir. Par ailleurs, quand même, ce qui me semble, c'est que il est vrai que nous avons vécu le bouleversement du XXe siècle avec ces deux guerres mondiales, mais Zola vit aussi dans une société bouleversée. Alors, c'est évidemment pas le même... Il n'y a pas eu les atrocités de la guerre à son époque, mais le fait de voir un monde qui change, un monde qui se bouleverse, un monde avec une classe ouvrière quand même extrêmement pauvre, un monde avec des enfants qui meurent de faim, qui sont battus, cette espèce de diffusion comme ça d'une réalité extrêmement cruelle a pu être quelque chose de très très marquant, je pense, pour un auteur sensible à l'humanité comme Zola. Et puis, de manière très personnelle, il est vrai qu'il n'a pas vu des événements historiques peut-être aussi terrible que ce que le XXe siècle a connu, mais la violence dont lui-même a été victime lors de l'affaire Dreyfus a été, à mon sens, quelque chose d'assez, de suffisamment fort pour que ce soit placé d'ailleurs, sur un plan de compréhension de toute la rage, de tout le danger que peut avoir une perception d'un monde hiérarchisé, parce que c'est quand même ça la question. Et dans un deuxième temps, alors sur Lévi-Strauss, je pense qu'il y a une sorte d'annonce chez Zola de la démarche de Lévi-Strauss avec cette idée d'observer de manière assez neutre des milieux, des individus, des systèmes aussi, puisque finalement un arbre généalogique, c'est un système qui fonctionne sur lui-même, donc avec une volonté d'établir quelque chose qui va expliquer l'être humain, mais dans un ensemble de systèmes, de liaisons, et non plus par rapport à des transcendances, en fait. Voilà, je pense que c'est là la question. J'espère que j'ai à peu près répondu.
Merci beaucoup. Je vois que Jean-Sébastien prend la parole, sans doute pour les questions qui arrivent et qui sont sûrement très nombreuses.
Oui, voilà, effectivement, j'ai plusieurs questions qui sont arrivées, donc je les retransmets dans l'ordre d'arrivée. Donc la première de Aurélie Barjonnet, est-ce que tu t'es intéressé dans ta thèse ou dans le cadre de cette conférence à la réception marxiste ou communiste de Zola sous cet angle de l'humanisme ?
Alors, je me suis intéressée à la question du marxisme de manière un petit peu, on va dire, marginale, puisque je m'arrêtais en 1908. Et on va dire que les grandes réceptions marxistes, les grandes relectures marxistes du XXe siècle, je ne les ai pas abordées dans ma thèse. Néanmoins, c'est sûr qu'il y a là quelque chose à approfondir. Hein, la question du marxisme pose aussi la question de l'humanisme, hein, puisque c'est toujours autour de ce matérialisme que tourne la question. Donc, je l'ai effleuré, mais... grâce à Aurélie, je me rends compte que je vais pouvoir l'approfondir.
Alors, deuxième question de Isabelle Schaffner. Est-ce que vous identifiez des aspects de ce nouvel humanisme naturaliste chez d'autres romanciers contemporains de Zola ?
Alors là, comme ça, non. Enfin, en tout cas, pas dans les grands auteurs. Après, il est tout à fait possible de trouver quand même, on va dire, alors peut-être pas aussi fortement, mais quelques influences. Alors moi, je pense par exemple à Octave Mirbeau ou des auteurs comme ça, qui vont peut-être pas aussi loin que Zola, mais qui prennent un petit peu cette même direction.
Une question de Nick White, donc qui écrit hein, d'abord Meilleurs vœux de Cambridge. Très intéressant de t'entendre nuancer par rapport à Zola la notion classique de l'épopée comme récit de fait d'armes. Comment est-ce que tu situerais la débâcle dans ce contexte? Et entre parenthèses, il écrit, tu excuseras le narcissisme de ma question.
Tu es tout excusé, Nick. Je te souhaite aussi une bonne année. J'en profite pour faire coucou aux amis de Cambridge qui nous écoutent. C'est un grand plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Alors, sur la débâcle, eh ben, je pense, Nick, que la question justement de la bestialité, c'est-à-dire le renversement, jusqu'à quel point finalement cette vision pyramidale qui place un homme au centre, qui place l'homme en haut, au sommet, avec évidemment du coup des arrière-plans politiques, des arrière-plans militaires. Derrière toute hiérarchisation, on peut avoir après une hiérarchisation nationale aussi. C'est l'idée qu'on fait des guerres de conquête, on combat l'ennemi. La notion d'ennemi existe parce qu'il y a hiérarchie, parce qu'il y a une sorte de volonté pyramidale. Et pour la débâcle, on voit à quel point bah, le système, ce système hiérarchisé s'effondre parce que d'une part, dans une guerre aussi violente et aussi finalement déstabilisante, bah les points de repère n'existent plus. Donc l'homme est ramené à un statut d'horizontalité avec le reste du monde, horizontalité avec l'animal, horizontalité avec ses semblables. La question de la guerre est extrêmement marquante, puisque effectivement, on est dans une épopée, mais une épopée qui nous montre à quel point bah, c'est une débâcle pour cette idée que y aurait des héros qui seraient supérieurs en haut, puis qui mèneraient des peuples à la guerre. Il y a véritablement ici une sorte de renivellement vers la question de l'animalité, et encore même, puisque les animaux ne se font pas la guerre. Donc il y a une mise en question extrêmement, de mon point de vue, extrêmement sévère, extrêmement rigoureuse de la part de Zola, finalement des dérives que peut avoir une perception trop haute de l'homme. C'est une sorte de contre-épopée, quoi, presque, de mon point de vue. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Une question de Chantal Pierre également. Cet humanisme non anthropocentriste de Zola n'est-il pas à mettre en lien avec l'influence de Schopenhauer?
Si, absolument. Alors là, je réponds oui, tout à fait. Schopenhauer a cette pensée aussi, hein, assez pessimiste. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche dans certains articles, je crois que c'est dans la Revue des Deux Mondes. Il y a un article assez intéressant qui parle de Schopenhauer en étant extrêmement critique. Et c'est à peu près, on va dire, ce qui va être, comment dire, reproché à Zola. Le pessimisme, mais aussi dans la pensée de Schopenhauer, la pitié. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque les adversaires de Zola n'ont de cesse de dire que le monde de Zola est un monde sans pitié, un monde impitoyable. Mais c'est en réalité un abus, une manière encore une fois, de consolider l'idée que, oh bah, avec une vision très hiérarchisée du monde, avec donc cet homme au sommet, on pourrait avoir une sorte d'expansion, de la pitié. Alors ce serait l'homme qui aurait la pitié, on va dire, un peu condescendante, hein, qui s'abaisse vers le monde, alors qu'il y a une sorte de pitié universelle, hein, là, chez Zola, qui clairement fait tout à fait écho à la pensée de Schopenhauer.
Enfin, je n'ai une remarque de Paolo Tortonese. L'accusation de séparer les objets de l'humain a également été formulée par Lukács.
Oui, exact. Merci, Monsieur Tortonnez. Merci pour votre question et d'avoir assisté à cette communication. Lukács, justement, puisque Aurélie Barjonet parlait de la question du marxisme, est un auteur extrêmement intéressant. Alors, j'en avais parlé un petit peu dans ma thèse, pour signifier à quel point il y avait quand même un paradoxe chez Lukács dans cette façon. Alors, en termes d'idéologie, il y a quand même des points communs. Hein, enfin, mais il y a une sorte de refus, en fait, d'aller jusqu'à la prise en compte de cet objet. Il y a une manière chez Lukács de critiquer effectivement le fait qu'on reste dans de la description, il n'y a pas d'appropriation du monde. Il le compare d'ailleurs à Balzac, mais cette remarque est d'ailleurs assez surprenante. Enfin, je sais que j'en avais un petit peu parlé dans ma thèse par rapport à la pensée marxiste. En fait, il y a une sorte de résidu d'idéalisme, hein, enfin, si je puis dire ainsi, chez Lukács, qui ne veut pas voir un monde composé d'objets uniquement, enfin, qui veut une interaction, une saisie de l'objet par la pensée humaine.
Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour le moment sur le fil de discussion, hormis des félicitations, hein, que je te transmettrai par écrit à l'issue du séminaire.
D'accord.
Bien, écoutez, quelques mots encore peut-être pour conclure ce séminaire. J'ai encore une question que je poserai à Pascaline, je ne voudrais pas l'épuiser, mais c'est pour la remercier finalement que j'ai envie de lui poser encore une question. Quelques mots simplement avant de conclure et de poser une dernière question, pour vous dire évidemment que ce séminaire est enregistré, que vous pouvez le réécouter. Et j'ai l'impression, en vous écoutant tous, en écoutant les questions, que nous avons peu à peu trouvé notre rythme de croisière. Malheureusement, ai-je envie de dire, ces séminaires à distance, ces séminaires par écran interposé vont se prolonger. J'ai peur au cours des mois qui suivent, et je pense que le prochain séminaire en février, ça c'est même sûr, mais en mars également, ces séminaires seront selon les mêmes modalités. Mais après tout, nous avons trouvé, me semble-t-il, notre rythme avec celui ou celle qui peut intervenir, les questions qui peuvent être posées. Et j'ai même l'impression que les questions sont, d'une certaine façon, plus nombreuses peut-être, ou plus variées, en tout cas venant évidemment de lieux différents que si nous étions tous rassemblés dans une salle de la rue Pouchet ou de Paris 3. Et donc de cela, je me félicite que le séminaire s'ouvre ainsi et s'ouvre ainsi à des interlocuteurs aussi nombreux que possible. À quelque chose, pourrait-on dire, malheur est bon, cette pandémie terrible qui nous accable tous nous permet au moins, grâce à la technique numérique, de dialoguer. Et ce matin, nous venons d'en proposer un nouvel exemple. Voilà, j'ai juste une dernière question à poser à Pascaline pour la remercier encore. Et puis, je conclurai le séminaire en évoquant un livre qui vient de paraître et que je crois important. Mais juste une question. Je me disais, en vous écoutant, en écoutant aussi ceux qui viennent de parler ce matin, que parmi ces voix VOX, hein, de la réception que vous analysez et que vous avez l'intelligence de restituer dans leur véritable profondeur, c'est-à-dire que vous ne les caricaturez pas. Il n'y a pas de caricature chez vous, hein, dans cette vision que vous avez de l'antinaturalisme. Vous essayez au contraire de voir la force d'un débat qui se met en place. Est-ce que dans ces voies qu'on peut analyser et qu'on analyse, comme vous le faites très bien, je crois, à partir de nos points de vue d'aujourd'hui, de notre vision de moderne, de notre insertion dans ce 21e siècle que nous sommes, est-ce que parmi ces voies, on peut distinguer quand même des voix qui seraient masculines ou féminines? Je veux dire par là qu'il me semble que ces grands critiques sont surtout des hommes, et des hommes qui donnent leur point de vue, et je pense par exemple à la réception de Nana, hein, ceux qui reprochent au moment où Nana paraît à Zola de mal parler de la courtisane ou de mal parler de la prostitution, le font à partir d'une compétence masculine qui serait la leur, celle du bordel, si je puis dire, alors qu'ils verraient chez Zola un homme qui n'a rien vu, hein, qui n'a rien compris de la courtisane et de la réalité de la prostitution. À cela, d'ailleurs, Zola répond, hein, répond avec intelligence en disant qu'il est parfaitement conscient de ses reproches et qu'au contraire, il veut montrer un portrait plus fort, peut-être, que les visions justement stéréotypées de la courtisane ou de la prostituée que ses contemporains pourraient avoir. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai regardé comme cela la réception de Nana, c'est que les voix féminines qui pourraient défendre Zola et lui dire après tout, oui, vous avez raison d'ouvrir un dossier aussi brûlant que celui de la prostitution, j'ai eu l'impression que ces voix, on ne les entendait pas. Mais est-ce de ma part une certaine vision restreinte, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous, en tout cas, vous pensez que dans ces grands débats que Zola a ouverts et qui a suscité autant de réceptions, on peut voir comme ça ces voix masculines à côté de ces voix féminines, ou plutôt, pardonnez-moi, ces voix féminines à côté de ces voix masculines. J'en profite pour annoncer à ceux qui nous écoutent que justement, les Cahiers naturalistes publieront l'année prochaine un très beau dossier sur le naturalisme au féminin auquel vous participez. Et c'est en pensant aussi à ce dossier que je vous pose cette question.
Oui, alors c'est effectivement une question assez complexe en fait, parce que il y a plusieurs données à prendre en compte pour comprendre le fait que, effectivement, par exemple, si je regarde le corpus sur lequel j'ai travaillé, donc entre les années 1880 et 1908, ce qui fait quand même une assez grande amplitude temporelle, j'ai pas énormément de voix féminines. Alors c'est très simple, hein, celle que j'ai, ça va être Rachild. Donc, qui dit des choses assez intéressantes, mais c'est pas de la critique, on va dire, aussi, comment dire, à chaud, comme on dit aujourd'hui, que ce qu'on peut avoir quand on a les échanges entre Barbet et Zola. J'ai Séverine, qui est un personnage assez intéressant, puisque là, la question se pose aussi de savoir comment Zola arrive à dialoguer avec des lectrices, avec des critiques. C'est vrai qu'il a eu une certaine peut-être difficulté à échanger avec Séverine, non pas, je pense, pour des raisons purement idéologiques, mais parce que il y a un véritable questionnement sur comment la femme prend la parole publiquement, dans la presse, comment elle acquiert finalement une parole publique, parce que dans les articles de journaux que j'ai pu consulter ou dans les ouvrages critiques, il y a finalement assez peu de femmes qui prennent la parole publiquement. Celles qui le font, par exemple Julia Daudet, c'est souvent parce que elle livre des souvenirs, des mémoires. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on a du coup de la critique, on va dire, de manière un petit peu implicite. C'est pas de la critique directe, c'est pas du combat, comme si les femmes étaient un petit peu mises en dehors du combat. Donc vraiment dans les femmes qui vraiment prennent part à ce débat de façon très très active, il y a Emilia Pardo-Bazan, qui est un petit peu marginalisée. Alors elle essaye de rentrer dans le cercle des Goncourt, mais alors elle est admise, hein, mais elle le dit d'ailleurs dans ses mémoires personnelles, qu'elle a toujours eu le sentiment qu'elle n'était qu'une femme, hein, et que donc elle ne pouvait pas prendre pleinement part au débat de manière aussi forte qu'elle l'aurait souhaité. Séverine, qui a eu des articles assez intéressants autour de ce qu'écrit Zola, qui a reconnu une attention de Zola à la cause féminine, et Rachild, donc qui elle entretient des rapports un petit peu plus complexes avec le naturalisme, puisqu'il y a, je dirais, chez Rachild à la fois le discours critique, dans lequel elle reproche un peu à Zola d'avoir en quelque sorte écrasé la production littéraire du 19e, et en même temps une écriture romanesque qui, si on l'analyse, peut être extrêmement féconde, mise en relation avec certains points du naturalisme. Donc ce sont des voix fortes, mais des voix effectivement qui ne sont pas très nombreuses. Alors on en trouvera peut-être d'autres au gré des recherches, il faut l'espérer. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, j'ai ces voix-là à faire valoir contre les voix masculines.
Merci encore pour ce bel exposé. Donc peut-être un dossier futur dans les Cahiers naturalistes, je ne sais, sur la réception au féminin. Voilà peut-être une piste à laquelle on pourrait songer. Eh bien, je vous remercie tous de votre attention. Je remercie surtout Pascaline pour ce brillant exposé. Et je rappelle encore une fois que grâce à Canal U, vous pourrez réécouter ce qui vient d'être dit et notre discussion aussi qui est importante. Et je termine en signalant cet ouvrage que Clive Thompson vient de publier aux éditions Atlantes. Ce sont des entretiens avec Henri Mitran, une réflexion de la part d'Henri Mitran sur sa carrière, mais évidemment sur ses recherches, sur Zola, sur tout ce qui entoure Zola. Ça s'intitule « On croit comprendre le monde avec ça ». Donc, d'une certaine façon, Henri Mitran est aussi dans cette vision qui était celle de Pascaline Hamon ce matin, c'est-à-dire lire Zola, mais à travers Zola, le monde dans lequel nous vivons. Ça s'intitule donc « On croit comprendre le monde avec ça », entretien mémoriel avec Henri Mitran. Voici la couverture de l'ouvrage hein, que j'indique, mais que j'avais signalé dans l'un des derniers courriers zoliens que je vous adresse et vous renvoie d'une manière plus générale pour les ouvrages qui viennent de paraître à ces courriers, car je crois que nous n'avons pas vraiment la possibilité dans ces séminaires à distance de parler véritablement en détail des ouvrages qui viennent de paraître. Encore une fois, merci Pascaline Hamon et merci à tous. Et puis au prochain séminaire, je vous donne rendez-vous au prochain séminaire. Il se tiendra le 26 février, vendredi 26 février, toujours à partir de 10h, avec la même adresse de connexion que celle que vous utilisez actuellement. Et nous écouterons Jean-Yves Guérin, qui nous parlera, vous savez que c'est un grand spécialiste du théâtre et de l'histoire du théâtre, qui nous parlera justement de Zola chroniqueur, de Zola face au théâtre de son époque, de Zola et des chroniques théâtrales de Zola. Merci encore, merci à tous. Au revoir.
Merci.